Transmission Intime, le podcast féministe du Centre culturel Moucronois. Je m'appelle Gwenaëlle et je serai la voix de Transmission Intime. Cet épisode fait mention d'inceste. Si cela peut réveiller une souffrance ou un trauma pour vous, sentez-vous libre de ne pas poursuivre cette écoute. La SBL de Mot à Mot invitait en novembre dernier Arnaud Gallet, victime d'inceste, pour une conférence au Centre culturel. Voici son témoignage.
Arnaud Gallet, bonsoir. Vous avez publié un témoignage sans appel, « J'étais un enfant ». C'est à la fois révoltant et bouleversant, mais aussi résilient et porteur d'espoir, puisqu'aujourd'hui, vous êtes un activiste des droits de l'enfant. Alors, vous êtes né le 29 juin 1981 dans une famille bourgeoise avec un père directeur commercial, une mère au foyer, deux sœurs, un père souvent absent, une mère sévère qui calme ses enfants sous des douches froides. Mais à partir de 6 ans, la violence devient lancinante pour vous.
Tout à fait. Bonsoir déjà à toutes et tous. Merci infiniment également de m'avoir invité. Je suis heureux d'être ici. Et effectivement, c'est tout le sens effectivement, de mon histoire, du début de ma vie. Et pour moi, c'est essentiel. On parle des chiffres des violences sexuelles faites aux enfants. Je pense qu'il faut le mettre dans un contexte. Et bien souvent, c'est un contexte de continuum de violence. C'est-à-dire qu'il y a toute la question de ce qu'on appelle aujourd'hui des violences éducatives ordinaires. Tout climat de violence, d'une certaine manière, est propice à rendre l'enfant encore plus vulnérable qu'il n'est, d'une certaine manière, de par sa nature, puisqu'il y a bien ce statut-là qui est là. Et je pense que ça, il faut l'avoir en tête. C'est le combat qu'on mène en France, qu'on mène ici en Belgique, qu'on mène partout. Je pense que c'est un combat universel. Et pour moi, c'est essentiel. Et c'était essentiel de commencer par le début.
Mmh. Alors, vous dites que vous êtes issu d'une lignée d'hommes qui sont pétris de souffrance, de haine, de violence, d'alcool aussi. Une violence aveugle dont vous portez toujours aujourd'hui les stigmates.
Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, si j'ose dire, me colle à la peau. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin aujourd'hui, je reviendrai sûrement dessus, d'être suivi par un psy, etc. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont presque indélébiles. C'est-à-dire que ça, c'est ancré comme un fonctionnement d'une certaine manière. Après, le message que je porte aussi aujourd'hui, c'est important, c'est un message d'espoir. C'est-à-dire qu'on peut sortir aussi de tout ça. On peut, grâce aux soins, quand même aller mieux. Et c'est important quand même de le dire. Mais après, la vraie question, c'est l'accès aux soins. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance, d'une certaine manière, de bien gagner ma vie pendant les choses comme ça. Et donc, d'être en capacité d'avoir des soins adaptés. Par contre, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas le faire. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi de société. Et c'est aussi tout l'enjeu de mon combat, à mon sens. C'est pas de penser uniquement à ma résilience, à ma capacité, au bout d'un moment, de surmonter, parce que c'est quelque chose de très singulier. Mais c'est de voir tous ces parcours. C'est-à-dire que j'étais un enfant, j'étais un parmi, en France, on dit qu'il y a 160 000 enfants victimes chaque année donc de violences sexuelles. On dit qu'il y a 5,5 millions de Français, ça fait 10% de la population française quand même victime de violences sexuelles et d'inceste, avec 80% d'inceste. Donc on a tous grandi, je pense vous également, avec l'idée de se dire « Surtout, fais attention dans le parc, si on te donne un bonbon, etc. » On a tous grandi avec cette histoire qui nous était racontée. Et finalement, c'est souvent dans la famille ou dans l'environnement proche que le risque était le plus important, et ça on nous l'a jamais dit d'une certaine manière.
Alors pour bien comprendre votre histoire et pour ceux qui ne la connaissent pas, à l'âge de 8 ans, en fait vous croisez la route d'un grand-oncle qui est prêtre salésien de Don Bosco, organiste, éducateur d'enfants, et c'est un espèce de, vous l'écrivez, un bon pasteur mais aux allures de prédateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passé l'abus dont vous avez été victime la première fois?
Ce qui s'est passé, pour le raconter déjà comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui s'est lié d'amitié avec mon père. Mon père, c'était quelqu'un d'extrêmement violent, qui a été jusqu'à me donner des coups de ceinture, des coups de chausse-pied, me braquer avec une arme. C'est la première scène que je raconte d'ailleurs dans le livre. Et tout le monde le savait d'une certaine manière. Ça, c'est mon message aussi qui est important, puisqu'on renvoie souvent en fait une forme de dualité entre l'agresseur et la victime. En réalité, moi je parle clairement du consentement de la société ou de personnes qui savent et qui ne font absolument rien. Et donc ça veut dire que tout le monde le savait, lui s'est lié d'amitié donc avec ce grand-oncle qui était également donc prêtre missionnaire, Don Bosco exactement, et comme on le sait bien, Don Bosco s'occupe des enfants. C'est quelqu'un qui est en Afrique, au Gabon. Et donc, en se liant d'amitié avec mon père lui disait, bah, écoute, quand tu arrives par l'aéroport, donc à Roissy, n'hésite pas à m'appeler, je viendrai te chercher, tu viendras dormir à la maison. Et effectivement, il venait dormir à la maison parce que mes parents n'étaient pas très loin. Et j'ai jamais compris pourquoi mes parents le faisaient dormir dans ma chambre, alors qu'il y avait une chambre d'amis, on était plus dans une grande maison, etc. Sauf que la chambre d'amis, le prétexte de mes parents, c'était de dire qu'elle n'était pas rangée, et donc ils dormaient dans ma chambre, et j'avais un lit à baldaquin, vous savez, les fameux lits avec le tiroir. Et c'était une époque où, pareil, pour moi, c'est mon combat, je faisais de l'énurésie, donc je faisais pipi au lit. D'accord ? C'est important, pourquoi je dis ça ? Parce que l'énurésie, c'est souvent aussi un symptôme d'enfants qui sont victimes de maltraitance. Et j'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 12 ans. Et sauf que la seule réponse qu'on a eue du médecin, ça a été de dire, en fait, c'est la méthode pipi stop, vous savez ? Donc en fait, on voyait pas en fait la causalité. Mais on s'est occupé du symptôme en tant que tel, et le médecin insistait puisque je continuais à faire pipi au lit. Donc ce prêtre arrive, donc prêtre et grand-oncle. C'est là que c'est compliqué pour moi, parce que c'est de l'inceste en même temps, c'est quelqu'un qu'on appelle mon père, donc c'est vrai que c'est assez particulier. Et donc il dormait dans ma chambre, et à chaque fois en fait qu'il venait, je faisais quasiment pipi au lit tous les jours, et donc dès qu'il voyait que je faisais pipi au lit, il me demandait en fait de me déshabiller, donc moi j'étais complètement souillé. Et il me demandait de le rejoindre dans son lit. Voilà. Et ce qui est assez particulier, peut-être à raconter comme ça, c'est que la première version dont je me suis rappelé, c'est celle sûrement que mon cerveau a souhaité qu'il soit la plus accommodable pour moi et pour survivre à tout ça. C'est-à-dire que je me suis jamais rappelé de sa stratégie. J'ai toujours cru avoir été consentant en fait de ce moment-là, et donc ça a énormément troublé mon adolescence, notamment quand j'avais des attirances envers des filles, etc. Je comprenais pas. Je me disais non, moi je suis homosexuel, donc voilà. Et c'est uniquement à l'âge de 19 ans que j'ai compris les choses grâce aux journalistes, je veux le dire de cette manière-là, et à un reportage sur France 3 exactement. Et
un reportage que vos parents regardaient, exactement. Et vous êtes passé dans la pièce.
Exactement. Il y a ce reportage, et comme beaucoup de victimes, en fait, les choses arrivent de manière tout à fait spontanée. C'est-à-dire qu'on décide pas forcément le moment où on parle. Enfin, tout du moins, moi, ça s'est passé comme ça. Et donc, je raconte à mes parents ce qui s'est passé. Et la première réaction de ma mère, que j'ai jamais réellement compris, qui m'a complètement sidéré, ça a été de dire, on s'est fait avoir. Je me suis dit, on s'est fait avoir de quoi? Et là, c'est grâce à Camille Kouchner, d'une certaine manière, que j'ai compris ça récemment, puisque bien évidemment, il y a des co-victimes de viol, et je pense que ma mère, malgré toutes les maltraitances ou autres, elle n'a jamais souhaité que son enfant soit violé ou quoi que ce soit. Et donc, je lui ai raconté effectivement ce qui m'est arrivé. Mais encore une fois, je n'avais pas toute la compréhension. J'ai compris que ce n'était pas normal, alors que pour un enfant de 8 ans, c'est pour ça que moi j'insiste et que j'en parle, c'est qu'on ne comprend pas ce qui se passe en réalité. On ne comprend pas, et je vais revenir justement pleinement sur ce qui m'est arrivé. J'étais dans une grave dépression, comme une personne sur deux, comme tu l'as dit. Je faisais des tentatives de suicide, etc. J'avais comme 40% donc des personnes une addiction, beaucoup de cannabis, etc., d'alcool. Et je décide de me faire suivre. Et à raison de 2 fois par semaine, j'allais voir un psychiatre. Le psychiatre, je pense, pour moi, ça a été salvateur, a dit, je prenais des médicaments à l'époque, parce que le médecin de famille, pareil, au lieu de voir la causalité, m'a dit, prenez des cachetons. Donc j'ai pris des cachetons, et donc j'ai dit au psychiatre, moi forcément je voulais mes cachetons quoi, d'une certaine manière, et lui m'a dit, c'est hors de question, vous n'êtes pas fou, ce sont les personnes qui vous ont fait mal, qui ont sûrement besoin de quelque chose, mais pas vous. Bon, ok, donc je me suis dit, tiens, c'est assez étonnant, il dit, c'est normal que vous réagissez comme ça. Et grâce à ça, en fait, petit à petit, grâce à la thérapie, je me suis souvenu des faits. Alors pourquoi j'en parle comme ça? Parce que j'ai fait ce qu'on appelle, et ce que font énormément d'enfants, en fait, une amnésie traumatique partielle. C'est-à-dire qu'on se souvient uniquement de certaines choses, et il y a plein de choses qu'on avait complètement occultées. Et grâce à la thérapie, je suis revenu, je pense, quasiment, je ne vais pas dire sur 100%, mais quand même, j'ai une compréhension de ce qui s'est passé. Et donc, pour rembobiner un peu ce que je disais tout à l'heure, il me faisait venir donc dans son lit, et là, en fait, il me présentait les choses au début comme une découverte de mon corps. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est comme il y avait pipi stop, et lui il me disait, voilà comment fonctionne ton corps, ton zizi, machin, tout le truc, voilà.
Sous couvert de normalité.
Sous couvert de normalité. Et puis moi, je me disais, c'était un oncle, nous, c'était l'époque, vous savez, je suis d'origine, bretonne, exactement. Vous savez, il y a les Français d'un côté, il y a les Bretons de l'autre, c'est un peu ça. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on est quand même assez chauvin. Et en fait, il y avait une tradition en Bretagne, on donne, en fait, on donne les aînés à l'église. C'est-à-dire qu'on donne 1 ou 2 aînés, c'est-à-dire souvent les plus grands, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique du tout, mais en tout cas, nous, on le fait. Ou des fois, ça peut être d'ailleurs des sœurs aînées qu'on donne aussi à l'Église et donc qui deviennent sœurs. Il y a cette tradition-là qui existe, qui a perduré pendant longtemps en France, en Bretagne d'ailleurs, principalement dans l'Ouest, tout du moins. Et donc, moi, je me disais, mais en fait, c'est quelqu'un qui me fait l'éducation et peut-être que c'est normal, en fait, qu'il le fasse de cette manière-là, puisque finalement, il avait le costume, pas uniquement parce qu'il était prêtre, mais parce qu'il intervenait pour ça, en fait, auprès des enfants. Donc, moi, je comprenais pas. J'avais 8 ans et il n'était pas violent du tout. Dans sa manière de dire les choses, c'était quelque chose d'une banalité absolue. Enfin, voilà. Bon, et puis forcément, petit à petit, bah, les choses se sont transformées et j'ai compris par la suite que forcément, bah, il me mettait la main sur son sexe, etc. Et donc, j'ai compris par la suite que bah, c'était de la masturbation, enfin, différentes choses. Et après, ça a été nettement plus loin puisque bah, c'était tout simplement, il n'y a plus qu'un pas, si j'ose dire, à faire en disant, bah voilà, mais ça peut servir aussi à d'autres choses. Il y a des adultes qui se font plaisir par la suite avec ça. Et donc, petit à petit, il me montrait aussi après forcément, bah, mon anus, machin, enfin, vous voyez, bref. Et pour aller, moi, je le dis de manière assez crue parce que souvent, derrière le mot viol, alors ça peut choquer, hein, ce que je veux dire ici, je suis désolé pour les personnes, mais c'est important. Pour moi, parce que je trouve que derrière le mot viol, inceste, on se rend pas compte. Et je peux vous dire que, moi, j'en parle de manière assez crue, j'ai pas de soucis, si j'ose dire, avec ça, puisque je pense qu'on se rend pas suffisamment compte de la violence que c'est. Vous voyez, quand à 8 ans, vous vous faites sodomiser par un adulte, parce que c'est ce qui se passe. C'est quelque chose de tellement inimaginable, incompréhensible, qui est tellement pas dans notre disque dur, qu'il l'est d'ailleurs peut-être toujours pas, d'ailleurs, au passage, parce qu'il y a toujours un peu ce regard, on se dit, bah tiens, et c'est sûrement d'ailleurs grâce à ce livre que j'arrive à me réconcilier un peu avec l'enfant que j'étais, d'une certaine manière, mais il y a quelque chose qui est insupportable et qui fait que le cerveau se déconnecte inévitablement. Ce qui est logique, parce qu'on est dans quelque chose qui est d'une violence sans nom, et donc qui génère un traumatisme inouï. Mais ce que retient le cerveau, d'une certaine manière, c'est pas une sorte de plaisir. Je dirais que je ressentais plus rien. Je le dis souvent d'ailleurs dans mon témoignage.
Une dissociation.
Exactement. Une totale dissociation traumatique en me disant, j'avais l'impression de ne plus être là. Et même, je l'ai souvent dit à mon psy, j'avais l'impression de me voir. Voilà. Ce qui est quand même assez surprenant comme moment. Et donc je le disais, il m'a fallu, j'ai fait quand même 10 ans de thérapie, par exemple, pour me souvenir de tout ça.
Ouais. Vous vous êtes dit aussi que vous n'étiez pas sa seule victime, qu'il avait fait des victimes parmi d'autres membres de votre famille, mais c'est aussi un prêtre qui a été dans 24 lieux différents. Il a exercé dans 24 lieux différents, chaque fois en contact avec des enfants. Il a été au Maroc, en Roumanie, je pense aussi.
Non, pas en Roumanie, au Maroc, Gabon,
au Gabon, oui.
Et plusieurs pays d'Afrique où il a été déplacé systématiquement.
Ouais. Et donc c'était un indice aussi du fait qu'il sévissait ailleurs, intrafamilial et hors du cercle familial.
Alors ce qui m'est, dans un premier temps, un des éléments déclencheurs, au-delà du reportage sur France 3, j'ai eu un oncle, un frère de ma mère qui s'est suicidé en 96. Et quelques mois avant qu'il soit suicidé, c'est un nom j'étais assez proche de lui, etc. Lui, qui était ivre comme pas possible au repas de famille, avait dit un jour, mais j'ai été agressé sexuellement par Rémi. Et tout le monde, vous savez, c'est un peu comme le film Festen, vous voyez. Et tout le monde lui a dit, oh, tais-toi. Enfin voilà, le réflexe de la famille. Ce qui est important quand même là-dedans, et c'est peut-être, si vous me permettez déjà le lien que je peux faire, parce que je suis membre de la commission donc indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, en France, 9 fois sur 10, les enfants parlent, et on leur dit, je te crois, mais je ne te protège pas. Pourquoi ? Parce qu'on vient banaliser quelque chose. Tais-toi, ou ça va se faire exposer à la famille. Pour les filles, de manière assez régulière, avec les violences sexistes, c'est forcément soit sa jupe est trop courte, soit elle était consentante, etc. Mais ça veut dire qu'il y a eu une forme de banalité aussi qui a été posée au niveau de mon oncle. Et ça, c'est important pour moi, et je m'en suis souvenu par la suite. Et surtout, j'ai compris avant que j'avais un autre oncle qui était mort 5 ans plus tôt. Et là aussi, on a de gros doutes, puisqu'on a appris par la suite, en fait, comment les choses s'étaient passées. Et pourquoi j'en parle là? Parce que très rapidement, on s'est rendu compte, une fois que je parle, dans les années 2000.
Que la famille savait, quelque part.
Eh ben, je me rends compte qu'il y avait un autre. Ma mère, en fait, le premier réflexe, dont je vous le disais tout à l'heure, me dit, on s'est fait avoir. Et elle cherche absolument à savoir, en fait, si d'autres personnes sont victimes. Elle appelle le premier cousin qu'elle a le plus proche, donc de la même génération qu'elle. Elle a dit, mais non. Et lui, il avait à l'époque une 50aine d'années, il dit, mais non, c'était pas des viols, des attouchements. Il faisait en fait de l'éducation sexuelle. Et donc, ce qui est assez stupéfiant, c'est que la stratégie de l'agresseur, l'idée, c'est quand même qu'à un moment donné, on arrive nous-mêmes victimes à s'en imprégner. Et lui, à 50 ans, et encore maintenant, parce que je l'ai eu encore récemment, pour lui, c'est toujours l'éducation sexuelle. Il n'en est pas sorti, d'une certaine manière. Il n'a pas eu cette compréhension de se dire que c'est quelque chose qui n'était pas normal, d'une certaine manière.
À 25 ans, après 5 ans de psychothérapie, vous le disiez à raison de 2 fois par semaine, un nouveau souvenir traumatique refait surface, parce qu'il n'y a pas eu que l'oncle prêtre qui a été abuseur.
Exactement. C'est-à-dire que j'étais en thérapie et puis on butait un peu avec mon psy sur les souvenirs d'enfance. Et moi, c'est vrai que je le dis souvent dans mon histoire, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on m'a volé mon enfance et que les souvenirs d'enfance, finalement, j'en ai assez peu. Et le psy insistait en disant « Mais quand même, vous avez une maison familiale du côté d'Angers, etc. » J'avais ma grand-mère à côté du côté d'Angers et c'est vrai qu'on y passait un peu de temps. Et moi, je disais « Ben non, je me souviens de rien. » Et puis au bout d'un moment, de manière tout à fait spontanée, je lui dis « Bah si, il y a un moment donné, on était... chez ma grand-mère, et comme ça se passe dans de nombreuses familles, je pense, il y a toujours, vous savez, le moment où les enfants peuvent faire un spectacle ou quelque chose comme ça, et nous, on répétait une pièce de théâtre. Et j'avais 12 ans à l'époque, et j'étais avec 2 cousins, l'un qui avait 13 ans, l'autre 15 ans, et je jouais le rôle d'une femme. Et au bout d'un moment, il y a l'aîné qui a dit « Bah tiens, je vais te montrer ce que je te ferais si t'étais une femme. » Et là, il m'a sauté dessus, le cadet m'a saisi les poignets, et l'autre m'a mis son sexe dans la bouche. Et là, le psy, moi, je le raconte comme ça, et le psy me dit, c'est un viol. Et moi, de la manière dont je le racontais, alors peut-être moins bien d'ailleurs maintenant, parce qu'à force, d'une certaine manière, mais je reprenais en fait cette version-là comme si, d'une certaine manière, c'était un jeu. Et donc, le psy m'a dit, allez en parler à vos parents, etc. Et ce qui est assez stupéfiant, là, encore une fois, c'est que tout le monde a adopté la version des agresseurs. C'est-à-dire que c'était un jeu, c'était du touche-pipi, c'était, vous voyez, comme si c'était un jeu, en fait, d'imposer une fellation, etc. Et encore une fois, c'est d'une banalité sans nom quand on regarde les chiffres. Ça, à chaque fois, ça nous stupéfait toutes et tous, sauf qu'en réalité, on cherche bien souvent à banaliser et à se dire que... finalement, c'est pas grand-chose, etc. Et surtout parce que ça peut faire exploser la famille. Et là, on voit bien d'ailleurs, ce qui est important quand même en France, c'est que l'inceste, les cousins, ce n'est pas considéré comme de l'inceste. En fait, en France, on a quand même cette partie, on a du mal quand même avec ça. Et là, on demande, nous, au niveau de la préconisation qu'on fait, au niveau d'ailleurs de la Civise, qu'on revoie cette définition de l'inceste et que les cousins soient intégrés, en fait, dans la famille et comme une relation, en fait, qui est interdite, etc. Mais on a un peu de mal, voilà.
Alors, vous parliez de ce qui a résulté finalement dans votre comportement par rapport à ce que vous avez subi, les addictions, mais aussi physiquement, vous avez développé des problèmes pulmonaires, apnée sévère, trauma respiratoire, hypertension, etc.
Alors ça, c'est vrai que c'est tout mon combat. C'est vrai que vous avez parlé des addictions, tu le rappelais tout à l'heure, 40% des victimes de violences sexuelles dans leur enfance, à qui on dit, et c'est important de le dire, je te crois, mais je ne te protège pas. 40% déclarent avoir une addiction. Voilà. Donc je fais banalement partie des 40%, et encore aujourd'hui, ça m'arrive sans problème quand je dirais que c'est un peu compliqué, comme ça l'a été récemment, notamment parce que je suis en plein dans les réparations au niveau de l'église. Je pourrais revenir dessus, parce que je fais partie des 22 signalements. Vous savez, on a eu la commission Sauvé, 330 000 victimes en France de pédocriminalité dans l'église. On reviendra dessus. Et du coup, mon combat, c'est quoi aussi? C'est de me dire que j'ai eu la naissance de mon fils en 2015. Donc, c'était pas si longtemps, parce qu'il a 8 ans. Et quelques mois plus tard, en fait, j'ai eu une alerte au niveau de mes poumons qui a fait que j'ai été hospitalisé. Les pneumologues, les professeurs, etc., trouvaient pas. Et donc, ils me disaient, monsieur, vous n'avez rien. Moi, j'ai rien demandé. C'est vous. Moi, j'ai... Et du coup, ils ont dû, en fait, chercher une pneumologue à un moment donné. Et grâce à une pneumologue, la première chose qu'elle a faite, à un moment donné, donc, elle m'examine. Et puis, elle me dit, monsieur, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez été victime de violences sexuelles? Moi, je me suis dit, mais de quoi elle me parle, elle? Et en fait, elle me dit, les symptômes que vous avez, qu'on détecte chez vous, sont ceux qui ont des pistes uniquement chez des victimes, par exemple, de violences sexuelles dans leur enfance. En fait, vous respirez comme quand vous avez été violé. Et en fait, les pneumologues ne peuvent quasiment rien faire là-dessus. Ce qui veut dire que, vous voyez, j'ai eu une nouvelle alerte là, en début d'année, en janvier, etc. Et cette fois, effectivement, j'ai mon poumon droit qui est attaqué. Et ça fait partie de mon combat. Pourquoi? Parce que je me dis, je trouve ça profondément injuste d'une certaine manière, vous voyez, de me dire que mon espérance de vie, pour le dire de cette manière-là, est réduite. Je ne suis pas là pour vous faire pleurer ou quoi que ce soit, mais au regard, vous voyez, en même temps, j'ai le bonheur d'avoir la naissance de mon fils, et de l'autre côté, je me rends compte que ça déclenche aussi quelque chose en moi qui fait que inévitablement on me rappelle que je vais pas dire que mes jours sont comptés, mais qu'on sait bien que l'espérance de vie néanmoins est quand même réduite quand on a été victime de tel traumatisme. Ouais.
Alors il faut du temps pour que la parole se libère. Je pense que c'est vers l'âge de 37 ans que vous avez commencé à témoigner dans les médias. Vous avez porté plainte à 39 ans, vous avez aujourd'hui 42 ans et l'affaire est toujours en cours.
Alors ça, c'est une vraie... je ne sais pas du tout comment ça se passe en Belgique, mais alors nous, en France, ça, c'est pas mal. Il faut environ 10-15 ans pour vous déposer plainte. Et avant d'arriver aux assises, quand vous arrivez aux assises, alors je vais donner quand même quelques chiffres. En France, vous avez... alors c'est vrai que c'était les chiffres qui étaient rappelés tout à l'heure, donc 4% des enfants victimes de viol qui déposent plainte. Sur ces 4%, 73% de ces plaintes sont classées sans suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a la prescription. Déjà, et parce que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés. Alors, ils n'étaient pas suffisamment caractérisés parce que jusqu'en 2021, donc il n'y a pas si longtemps, on demandait encore à un enfant de 5 ans, par exemple, est-ce que tu as été consentant à une relation sexuelle avec ton père ? C'est quelque chose qui était fréquent, je veux dire, et ça peut encore arriver aujourd'hui parce que la loi de 2021, elle est récente, et donc du coup, avant qu'elle se mette en place, voilà, donc on est moderne. On sait bien qu'on est les meilleurs en tout, je dirais en France, parce qu'on aime bien souvent se valoriser, etc. Mais on voit qu'on a quand même quelques petits soucis. On va pas se mentir non plus, c'est un peu notre sujet. Et puis, on a uniquement 0,4% de ces plaintes qui aboutissent aux assises. Donc comme on aime bien là aussi dire qu'on est les meilleurs du monde, il y a peu de temps en France, on s'est posé la question de se dire mais est-ce que Gisèle Halimi, celle qui a porté haut et fort en France la question notamment le viol est un crime, est-ce qu'on l'a fait rentrer au Panthéon, etc. Sauf que la réalité des faits, c'est que le viol n'est toujours pas considéré comme un crime parce que généralement, on revient, soit il est classé sans suite en majorité, soit il est correctionnalisé, c'est-à-dire que pour être de manière très claire et pour revenir à mon histoire, moi, on m'a posé la question au bout d'un moment, est-ce que vous voulez que votre viol soit requalifié en agression sexuelle ? Autrement dit, comme mon avocat m'a su me le dire, est-ce que vous voulez ou non qu'on prenne en compte la pénétration ? Là, il y a un truc que je comprends plus du tout ce qu'on me demande. Et effectivement, il y a cette question-là qui est posée. Et moi, aujourd'hui, ce qui est terrible, peut-être pour vraiment répondre de manière exhaustive en plus dans mon histoire, moi, tous les agresseurs ont reconnu. J'ai fait partie des 22 signalements de la CIA sur laquelle on reviendra, donc la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Donc l'Église m'a donné des éléments au bout d'un moment, m'a dit de toute façon monsieur, parce que les faits de non-dénonciation de crime en France, la prescription est de 4 ans. Donc l'Église m'a dit monsieur, votre avocat a dû vous le dire, les faits sont prescrits, donc on peut maintenant vous donner votre histoire. Et donc ils avaient bien connaissance des faits, pas de problème, donc on me l'a remis de cette manière-là. Mes cousins ont reconnu les faits. Et malgré tout ça, je suis le seul à pas avoir été entendu et je suis le seul en fait à attendre d'être entendu et à attendre peut-être qu'un jour que je sois reçu par le juge, etc. Pourquoi ? Parce que l'état de la justice est tellement dans un état sinistre en France, sinistré, voilà, que la priorité est donnée aux enfants, bien évidemment. Ça, je le comprends. C'est-à-dire que les juges, aujourd'hui, vont beaucoup plus facilement pour protéger les enfants que se dire que les victimes qui sont âgées, même si je ne suis pas un dinosaure, on est bien d'accord, les victimes qui sont âgées, on attend un peu. Et donc, moi, je suis, en fait, là-dedans, et donc, j'attends, en fait. Et je ne sais même pas ce qu'il en est. J'ai un avocat, je ne sais même pas, voilà. Et donc,
ouais. Merci beaucoup pour la première partie de ce témoignage. On reviendra ensuite.
Libérer le tabou autour de l'inceste est primordial pour la reconstruction des victimes. Il est aussi nécessaire de mieux informer afin de protéger davantage les enfants. Nous avons accueilli et recueilli le témoignage de trois femmes de la région victimes d'inceste, Natacha, Anne et Nathalie. Vous livrent leur histoire à leur tour.
Donc voilà, moi je m'appelle Natacha, je suis une maman de 50 ans, de 3 enfants, et donc j'ai vécu l'inceste, j'avais moins de 10 ans, puisque ce n'est dans les années 81, je suis née en 73, par quelqu'un qui était à l'époque membre de la famille, et c'est là où je me pose toujours la question de savoir si c'est réellement de l'inceste, étant donné que c'est quelqu'un qui n'est plus forcément dans mon entourage aujourd'hui. S'en est suivi, mes parents se sont séparés, donc cette personne est un peu partie de notre entourage. Il y a eu une amnésie de plus de 20 ans, puisque ça me revient par flash. À l'époque, j'ai presque 30 ans. Et donc, on s'interroge toujours de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe. Enfin, et donc voilà, le premier réflexe que moi j'ai, en tout cas, c'est d'appeler ma gynéco qui me dit, mais attention, parce que, enfin voilà, il faut savoir qu'à ce moment-là, en tout cas, je sais que je ne pouvais pas voir. Je me souviens d'un fait, c'est que je vois un couteau sur un lavabo et j'ai juste envie de me trancher les veines, en fait. Et donc à ce moment-là, je me dis, ouh, je sais que je suis maman, que je ne peux pas faire ça. J'ai la raison qui me revient et donc j'appelle ma gynéco, qui est la première personne que j'ai appelée à l'époque et qui me dit, bah écoute, ça va être le week-end, mais il faut absolument que tu en discutes, il faut que tu en parles. Mais t'inquiète, je te trouve un rendez-vous pour lundi matin chez quelqu'un. Et donc la première personne après ma gynécologue que j'appelle, c'est ma maman. Qui ne trouvera d'autres mots que de me dire, pour ton mari, il va falloir que tu fasses un effort. Sache au moins pourquoi j'ai toujours haï mon père, c'est parce que j'ai subi la même chose. Et voilà, enfin, c'est à partir de ce moment-là où j'ai l'impression que ma vie est un vrai tsunami. Comme je dis souvent, j'étais un château fort. À l'intérieur, j'étais un château de cartes parce que tout s'est effondré, enfin, tous mes repères. Mais en même temps, j'avais aussi des réponses à des comportements, à des réactions que je pouvais avoir, enfin, à plein de choses. Parce que, comme je dis, l'inceste, ça porte sur plein de plans divers et variés d'une vie de femme, de maman, de collègues de travail, d'amis. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et donc j'entame une thérapie chez une psychologue qui va m'aider à remettre en place toutes ces images qui me reviennent et tout ce que j'ai vécu et d'aller au bout des choses pour que effectivement, j'imagine que cette mémoire se remette en place pour que je puisse vivre avec. Et j'ai estimé que à un moment donné, j'avais suffisamment pleuré et qu'il fallait que j'aille de l'avant. Et donc j'ai arrêté cette thérapie parce que je pense que c'était peut-être pas non plus le moment pour moi, en tout cas, de continuer à pleurer, à me rappeler aussi certainement parce que voilà, on va pas se cacher qu'il y a des faits qui sont quand même traumatisants, je pense. Et donc voilà, j'arrête en tout cas cette thérapie en me disant ça va aller, je vais avancer. Sauf que on avance, mais en fait on fonctionne toujours comme un robot. En fait, on fait les choses un peu comme parce qu'il faut les faire, parce qu'on est marié, parce qu'on a des enfants, qu'il faut avancer, on est dans le travail, enfin voilà, on avance sans se poser de questions. Sauf qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir des réponses pas forcément d'avoir des réponses, parce que je pense qu'il y a des réponses qu'on n'aura jamais, enfin notamment dans mon cas, puisque l'amnésie faisant, je sais très bien que je n'aurai jamais entamé de procédure judiciaire dans un premier temps parce que les faits sont prescrits, dans un deuxième temps parce que l'auteur des faits à l'époque a déjà été condamné, puisque je sais que je n'ai pas été la seule victime de l'époque. Je le sais parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer son ex-femme de l'époque, qui m'a confirmé qu'effectivement je n'étais pas folle. Et donc ici, il y a plus ou moins maintenant 4 ans, je me suis dit il faut maintenant que je me reprenne en main, que je me construise avec mon histoire, mais plus forcément comme un fardeau. C'est plus maintenant, je me dis c'est mon histoire, je peux pas faire avec. Alors je sais que c'est pas toujours facile de porter ce genre d'histoire, mais en même temps, je pense que ça m'a servi et c'est celle que je suis aujourd'hui. Donc je dirais juste que dans un premier temps, ça a été difficile, mais qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie, moi, en tout cas, ce que m'évoque le mot transmission, et je pense qu'après, je m'arrêterai là, c'est de me dire que j'espère, et je voudrais en tout cas, que mon témoignage puisse servir à d'autres. Et c'est là où je veux transmettre, et c'est vraiment une transmission intime, parce que déjà, de savoir que les gens vont nous entendre, comme dernièrement, enfin voilà, lors de la conférence, la retransmission, on sait que voilà, j'ai plus peur aujourd'hui de m'afficher parce que je me dis que c'est pas moi qui dois avoir honte, et donc voilà, c'est ce que je voudrais transmettre en tout cas.
Voilà, ben je vais prendre le relais. Moi c'est Anne. J'ai souvent envie de dire mon nom de famille aussi, parce que voilà, je sais que on connaît mon nom de famille à Moucron, surtout pour savoir qu'on était un peu la petite famille idéale. Et voilà, je sais qu'il y a même de mes amis quand j'étais ado qui auraient voulu avoir voilà la une famille comme moi quoi, et puis voilà, bah une famille comme moi, c'est une famille qui fonctionne pas, c'est une famille qui de l'extérieur fait tout bien. Ce que j'ai essayé de faire moi-même aussi, de faire tout bien, mais voilà, c'est compliqué parce que bah moi aussi j'ai vécu l'inceste de la part de mon propre père. Alors ça a débuté, on sait pas trop parce que j'ai plus de souvenirs, mais voilà, d'après mon psy, en tout cas à 7 ans, voire peut-être avant, mais voilà, j'ai pas de souvenirs du début, et ça a duré jusque à l'âge de mes 18 ans. C'est venu se greffer en fait sur un traumatisme vraiment de la petite enfance, parce que donc je suis la seconde d'une famille de 4. J'avais un grand frère de 9 ans de plus que moi. Donc mes parents étaient sans deuxième pendant 9 ans, et puis voilà, ma maman est tombée enceinte après 3 fois de suite, voilà, très rapidement. Et il se fait que à l'âge de 12 ans, mon grand frère est tombé malade en janvier, et ma maman était enceinte de ma sœur, ma petite sœur, la dernière. Et donc cette même année, en fait, mon grand frère donc a été diagnostiqué avec un neuroblastome, et il a été en chambre stérile à Gand. Et à l'époque, les chambres stériles pouvait pas, enfin les personnes en chambre stérile ne pouvaient pas recevoir la visite d'enfants. Donc voilà, moi je sais que ma maman me l'a raconté, que je voulais aller voir mon grand frère mais je ne pouvais pas, et donc pendant un an il a été hospitalisé, il est revenu de temps en temps à la maison, voilà, mais de toute façon il y avait, enfin voilà, pas d'espoir que ça guérisse. Et donc la même année, ma maman a vécu donc cette maladie. Début septembre, elle a accouché de ma petite sœur. Début octobre, elle a perdu sa maman qui vivait chez nous depuis 10 ans, mais qui était alitée dans la pièce de devant parce qu'elle était paralysée. Et quelques mois plus tard, le décès de mon grand frère à la maison aussi. Donc voilà, il est décédé à la maison. Et donc je raconte ça parce que voilà, ça s'est greffé vraiment sur cet immense chagrin qui n'a jamais été consolé, parce que ma maman est partie un peu dans une vie parallèle où elle faisait tout bien, tout ce qui était intendance, c'était vraiment très très bien. Enfin, on avait nos anniversaires, on avait les fêtes de Noël, on avait les Saint-Nicolas incroyables, on partait en vacances dans les Ardennes, et elle faisait tout bien, elle préparait à manger, alors que voilà, elle m'a avoué un jour que préparer à manger, c'était pas trop son truc, mais pourtant elle cuisinait bien. Et je pense que mon père a pété les plombs aussi, parce que lui aussi a eu une vie, une enfance vraiment complètement débile, parce que mon grand-père était déjà lui aussi complètement allumé et malade. Et je pense que comme ma maman, physiquement, elle ne pouvait rien me donner, je pense qu'elle n'arrivait plus à nous prendre dans les bras, tout ça. Donc, et mon père l'a fait, et il a fait beaucoup plus que ça, évidemment. Et ma maman a laissé faire. Je prenais mon bain avec mon père jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc évidemment, prendre le bain avec son papa, et son papa qui est attiré par sa petite fille, ça fait des choses un petit peu bizarres. Et Et voilà, c'est compliqué, évidemment, de raconter vraiment 20 ans de sa vie comme ça. Voilà, ça a causé aussi un très grand déséquilibre au niveau de la fratrie, parce que mon frère était... Donc, il y a un an et demi de moins que moi. Quand mon grand frère est décédé, il parlait pas encore. Donc, il a pas vraiment pu exprimer. Et puis, il prenait la place de mon grand frère. On l'appelait avec le prénom de mon grand frère. On lui a donné le cartable de mon grand frère. On lui a donné la chambre de mon grand frère. Enfin, voilà. Donc, c'était compliqué. Et ma petite sœur, qui est arrivée, au moment où mon grand frère partait, elle a jamais vraiment trouvé sa place, et en plus, comme mon père, était plus gentil avec moi, ma petite sœur était jalouse, comme un enfant est jaloux qu'on s'occupe plus d'un autre, et voilà, c'était légitime. J'ai évidemment pensé que tout allait aller bien parce que je réussissais bien à l'école, j'avais réussi mes études, j'étais prof de piano, ça se passait bien, ça se passait relativement bien. Évidemment, j'étais toujours seule, j'ai vécu jusqu'il y a très très peu, j'ai vécu seule parce que impossible d'avoir une relation avec un homme. Et avec mes parents, je sais pas, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Avec mon père, je ne sais pas trop pourquoi. C'était à la mort de son père à lui, en fait, que ça s'est arrêté. Et puis, j'allais voir mes parents. Ils avaient tous les deux de l'humour, donc on rigolait bien, tout ça. Et je me disais, ça va passer, c'est pas grave, ça va passer. Et puis, non, il y a un moment où... je suis née en 1971, et puis en 2007, j'ai dû me faire hospitaliser, et puis c'est là que je me suis rendu compte que si je ne parlais pas de ce qui m'était arrivé, ça n'allait jamais aller, parce que ça m'étouffait. Donc je me suis fait hospitaliser pendant 4 mois et demi, puis j'ai commencé une thérapie. Il m'a fallu encore 2 ans pour en parler à ma famille, à mes amis. Alors j'ai été tout de suite prise au sérieux par ma famille, sauf ma maman. Enfin, je pense qu'elle m'a prise au sérieux, mais que c'était trop pour elle. Et elle avait déjà quelques signes d'Alzheimer. Et puis quand je lui ai annoncé ça, elle a même dit t'en as, enfin, parce que j'ai pas dit tout de suite que c'était mon père, elle a dit t'en as parlé à papa, et mon frère qui était là aussi a dit c'est lui. Et puis là j'ai vu que et après elle est partie, d'abord elle a dit je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre, et moi je la voyais plus à ce moment-là, et j'ai essayé de la revoir de temps en temps, mais elle a jamais voulu en parler. Et après, elle a sombré dans Alzheimer très 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 rapidement, et donc là, j'ai plus du tout eu de contact avec ma maman. Et en fait, dans mon histoire, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de pas avoir de pas avoir le soutien de ma maman. Ma maman qui avait été quelque part, je dirais pas complice, mais c'est pas possible qu'elle ait pas pu voir. Et ici, dernièrement, avec j'ai repris une thérapie, et je me rends compte que je me demande si ma maman n'a pas vécu la même chose avec son père, ou avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais... Voilà, et en fait, je voulais aussi dire, me servir de ce témoignage pour dire que je ne sais pas si c'est à cause je sens que j'ai vraiment fait une dissociation. Il y a ma tête, il y a mon corps, et mon corps m'appartient pas, et vivre qu'avec sa tête, c'est compliqué. Et Et donc, les efforts qu'on fait pour essayer de se réapproprier son corps, c'est très, très, très lent. Et l'entourage, qu'il soit amical ou familial, se lasse quelque part légitimement, je vais dire. Et donc, voilà, on vit l'enfance, l'adolescence dans l'isolement le plus total. Et puis après, on vit l'après, quand on a dit les choses, ça prend encore, moi personnellement, voilà, j'ai dit les choses en 2010, on est en 2024, et j'ai encore des hauts débats, et j'ai encore été en arrêt pendant 2 ans, et c'est vraiment difficile, parce que là, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré mon compagnon en 2019, et pour moi, ça a été compliqué. Mais je sens que les choses bougent, mais elles bougent tellement, de manière tellement minime que, voilà, comme je dis, pour l'entourage, c'est trop compliqué, en fait. C'est trop compliqué, vraiment. Et en même temps, je le comprends, mais en même temps, je souffre d'avoir été... surtout que ma petite sœur et ses enfants, parce qu'il n'y a que ma sœur qui a des enfants, et j'étais assez proche d'eux, on a vécu des choses chouettes, et ils n'ont pas tenu le coup, en fait. Ma sœur, pour se protéger, elle a dû m'éloigner de sa survie, quoi, parce qu'elle aussi, elle a morflé, quoi. Mon frère aussi, mais mon frère et moi, on est restés en contact, et... Et en fait, pour mon histoire, c'est cet isolement qui est le plus difficile et le fait que les gens ne s'imaginent pas qu'on fait du chemin, parce que depuis toujours, j'ai l'impression d'être dans des sables mouvants et que j'essaye de m'en extraire, mais on sait aussi que dans les sables mouvants, si on fait des trop grands gestes, on s'enfonce, et donc il faut faire des tout petits gestes. Et moi, j'en suis pas encore sortie, mais les petits gestes, je les fais. Et j'ai l'impression, ouais, de pas avoir de reconnaissance pour ça, et c'est compliqué pour moi. C'est un peu enfantin, c'est un peu bébé, c'est un peu, voilà, j'ai besoin de reconnaissance. Mais malgré ça, il y a des moments où ça va, où je me dis ça va aller, en fait, ça va aller. Je ne sais pas quand, mais ça va aller. Ce qui a été difficile aussi, c'est que j'ai été portée plainte, j'ai été reçue par un inspecteur qui était vraiment très très bien, et qui a entendu mon père aussi, et mon père a nié, et après il a juste dit oui, par 2 fois j'ai peut-être eu un geste déplacé, et c'est prescrit depuis 2004, donc pas de procès possible. J'ai pourtant des preuves, parce que mon père m'écrivait des lettres qu'il mettait sur mon oreiller, avec vraiment qui disait qu'il aimait bien d'embrasser mes petits seins, nanana, voilà, tout ça. Et j'ai appris il y a peu que, quand j'ai demandé, oui, mais avec ces lettres, est-ce que vraiment je peux pas, faire quelque chose, et puis on a répondu un avocat qui ferait ça serait dans l'illégalité. Et je dis, écrirait peut-être un précédent. Je dis, comme il y a des preuves, non, il serait dans l'illégalité. Donc voilà, résumé, lui serait dans l'illégalité, mais mon père est dans la légalité la plus totale pour finir sa vie. Donc ça, c'est compliqué. Faut encaisser beaucoup de choses. Quand on vit des choses comme ça, faut encaisser, parce que on comprend que les gens se lassent, on comprend que les gens n'aient pas envie de côtoyer des gens comme moi. Voilà, parce que je suis pas quelqu'un de toujours facile. Mais euh,
Heureusement, j'ai un médecin généraliste qui est vraiment, vraiment très, très bien et qui me rappelle de temps en temps le parcours que j'ai fait. Et voilà, de temps en temps, je vais le voir pour un peu reprendre du courage. Et voilà, je terminerai aussi par voilà ce que m'évoque transmission. Sans réfléchir, transmission pour moi c'est justement ne pas transmettre toute cette histoire familiale. En fait, moi je suis vraiment contente de pas avoir d'enfants. Après, je sais pas vous parler si j'avais eu des enfants, mais le fait de ne pas en avoir, je me dis tout est fini, quoi. Tout est fini, là, c'est bon. Parce qu'en plus, physiquement, je ressemble très, très fort à mon père, et ça, c'est très compliqué à vivre. Et je me dis, voilà, ça va s'arrêter. Il n'y a plus personne après moi, et tant mieux, quoi. Et tant mieux. Et ma sœur, elle ressemble pas du tout à mon père, elle ressemble à ma mère, et donc, voilà. Et ses enfants ressemblent beaucoup à leur père, donc je me dis, allez, c'est sauvé, quoi. Et voilà, et la transmission positive, c'est celle qui m'est permise aujourd'hui, c'est de transmettre mon témoignage. Peut-être plus pour attirer l'attention des adultes sur des comportements d'enfants qui voilà font tout trop bien ou font tout enfin je sais pas de pouvoir les ah je trouve pas mes mots les alerter les leur faire prendre conscience que voilà que un enfant c'est un enfant. Un enfant c'est pas un mini adulte, c'est un enfant et il fait avec ce qu'il a, il fait avec ce qui, comme il peut. Et faut d'abord l'écouter, et lui poser des questions Ouais, je sais pas. Ouais, transmission, c'est un drôle de mot pour moi. C'est un drôle de mot. C'est très dans ma tête, c'est un peu. C'est complexe. C'est et négatif et positif et... En tout cas, voilà, je suis vraiment reconnaissante de pouvoir en parler parce que pour le moment, dans le chemin que j'ai pris, c'est ce dont j'ai besoin, c'est d'en parler. Pas pour qu'on me plaigne, surtout pas pour qu'on me plaigne, mais pour qu'on se rende compte que nous toutes ou nous tous qui sommes passés par là, même si les gens n'ont pas l'impression que ça avance, franchement, on est quand même, on a un courage et une force, c'est phénoménal, quoi. C'est phénoménal. Donc voilà. Et je pense que en parlant comme ça, ça va me permettre de trouver la force de faire des choses positives et de vivre avec, quoi. De vivre avec. Et ça va aller. Voilà.
Nathalie, merci. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Puisqu'il y a peu, j'avais vraiment le souhait de témoigner, parce que pour moi, c'est aussi une manière, c'est une phase de reconstruction et ça en fait partie sur un sujet qui reste encore à l'heure actuelle tabou. Donc, j'ai vécu également donc de l'inceste en étant enfant. J'ai vécu 30 ans d'amnésie. Ça s'est réveillé assez violemment quand j'ai connu le père de mon fils. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir des flashs de mon grand-père. Et je me suis demandé un peu ce qui se passait en moi. Ça me faisait peur, j'avais l'impression d'être folle. Et pour moi, c'était trop dur d'aller voir en fait ce que c'était. Donc, j'avais cette sensation de mettre un couvercle en fait là-dessus, parce que c'était particulier comme sensation, que je ne comprenais pas en fait ce qui se passait en moi. Et au fil des années, ça s'est manifesté plus. Et donc, du coup, au bout d'un moment, c'était trop difficile pour moi. J'ai entamé une thérapie et grâce à cette thérapie, voilà, j'ai pu aller voir ce qu'il y avait là derrière et ça devenait de plus en plus pesant. J'avais finalement, au fil des années, j'ai mis plus ou moins 8 ans à aller explorer vraiment ces flashs dans la réalité. Et donc, j'ai voulu poser des questions puisque mon grand-père est décédé et ma grand-mère également. Donc, il restait la possibilité auprès de mes parents et de ma tante. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée chez ma maman et je lui ai expliqué en fait ce que je vivais, les images que j'avais, la sensation qui était là. Et en fait, justement, ce même été-là, ma tante était venue en visite et a parlé de son papa qui avait des déviances pédophiles et qui avait déjà des histoires connues à l'époque qui avaient été étouffées sur d'autres jeunes filles. Donc, du coup, je me suis décidée à contacter directement ma tante et quand je l'ai appelée, en fait, elle savait exactement pourquoi j'appelais. Donc, j'étais assez surprise par sa réaction. Et donc, c'était... elle le savait. Elle l'a caché auprès de mes parents, auprès de la famille. En fait, c'était la seule à savoir les déviances de mon grand-père. Ça a été caché à la famille entièrement. Et donc, du coup, j'étais vraiment choquée, en fait, d'apprendre justement qu'il n'y avait rien qui avait été fait pour me préserver, me protéger, ou voir même d'autres personnes, d'autres enfants de la famille. Et elle m'a clairement dit que de toute façon, c'était du passé et que c'était pas la peine de foutre le bazar dans la famille et que tout ça, ça servait à rien et que c'était tout. Fallait juste, hop, fermer la porte et ne pas foutre la merde, en gros. Donc, j'avais eu la chance à ce moment-là d'être accompagnée par une amie qui m'a vraiment soutenue dans cette épreuve émotionnelle intense. Et donc, je suis retournée chez mes parents pour aller en parler directement avec eux et alors leur expliquer ce que j'avais posé des questions à ma tante. Et donc là, pour eux, ça a été extrêmement violent d'apprendre ça après autant d'années. C'était presque 40 ans, même plus, plus tard. Donc, pour mon papa, de voir l'image de son père comme ça, enfin, et pour eux, en tout cas, la sensation de ne pas avoir pu me protéger. Comme ils ont dit, si on l'avait su, on aurait fait tout ce qu'il fallait, par rapport à ça. Et donc, ils ont aussi mieux compris certains de mes comportements, comme à l'adolescence. C'était très difficile. J'avais vraiment un mal-être profond. En étant enfant, à cet âge-là, moi, je me souvenais qu'un matin, je me suis levée, je ne pouvais plus marcher, que j'avais des bandages aux pieds, certainement dû à un choc que j'avais vécu à l'époque. Et j'avais eu peu de temps après aussi une hépatite carabinée. Donc, je me souviens très bien de ces états dans lesquels j'étais à ces âges-là. Et donc, voilà, j'avais des flashs, en tout cas, que c'était aux alentours de 7-8 ans. Et puis, une fois que entre guillemets la vérité éclate au niveau familial, c'est vraiment particulier. En tout cas, mes parents m'ont soutenue. Il a fallu digérer entre guillemets le choc familial pour tout le monde. Et les ponts ont été coupés complètement avec ma tante, puisque voilà, ça s'est vraiment mal passé aussi entre elle et mon papa. Elle a rien voulu entendre et en fait, j'ai été vraiment, entre guillemets, accusée à nouveau de vouloir foutre la brouille dans la famille. Et je pense qu'en tout cas, ce sujet de l'inceste est une réelle difficulté familiale, en tout cas dans mon histoire, où ça vient secouer tout un schéma qui est déjà mis en place. Et c'est comme une forme de honte, de déni même. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et donc voilà, j'ai définitivement coupé les ponts avec ma tante j'ai une cousine un tout petit peu plus vieille que moi, donc je ne sais pas, en tout cas à l'heure actuelle, si elle aussi, elle a vécu. Elle m'a dit clairement qu'elle avait tout fait pour préserver sa fille. Et quand je lui ai posé la question, mais pourquoi pas moi? Voilà, il n'y avait que ça qui comptait. Donc j'étais vraiment choquée qu'elle m'ait laissée, en fait, en étant là, puisqu'elle était là. Laisser faire des choses de ce genre. Et donc, derrière a commencé aussi tout. Voilà, un chemin de libération, de digestion, des événements, d'autres flashs qui arrivaient et un accompagnement thérapeutique. Et en fait, ça m'a donné aussi la force à travers ce chemin de me dire que ça fait partie de mon histoire, que je peux pas la changer, qu'elle est là. J'aurais préféré que ce soit autrement, mais c'est comme ça. Et que ça m'a motivée et en fait donné l'envie d'accompagner des femmes, soit dans la reconversion, soit dans un accompagnement. En tout cas, en tant que je me suis reconvertie en tant que formatrice auprès des femmes qui ont la plupart du temps aussi des profils ou de violences connues durant l'enfance ou de violences conjugales. Et pour moi, c'est un chemin qui est important et d'avoir fait un chemin envers moi-même à travers différentes formations, tous ces outils que j'ai pu apprendre pour moi-même, pour me reconstruire. Aujourd'hui, en fait, la transmission pour moi, c'est de pouvoir les transmettre aussi auprès de ces personnes-là, c'est de transmettre le message que l'inceste, c'est pas tabou, qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, et que ça a besoin d'être soutenu et entendu pour faire bouger les choses. Et en tout cas, la transmission du consentement, que ce soit auprès des enfants et des adultes, pour moi, c'est un message hyper important.
Après, c'est toujours compliqué. C'est ce que j'expliquais dans le groupe de parole. C'est que, du coup, ça replombe tout le temps l'ambiance. C'est pas un souci, hein, c'est pas ce que je reproche, mais du coup, c'est toujours difficile d'enchérir après ce qu'on entend, parce que c'est quelque part, on se reconnaît toutes, et même si chacune de nous, on est à des étapes différentes de la reconstruction, malgré tout, ça vient nous toucher quelque part, et ça vient, mettre à mal nos émotions. Et de se dire, ben ouais, c'est vrai que c'est tout ça. Et donc, ça refait surface, entre guillemets, même si, une fois, en tout cas pour ma part, quand j'aurai passé la porte, voilà, il me faudra sans doute la soirée pour dire de ressortir de là et je passerai à autre chose. Mais malgré tout, ça reste quelque chose qui est encore très, souvent, je pense, malgré tout, à fleur de peau, parce que je crois qu'on est tellement l'une et l'autre confrontées, en tout cas pour ma part, je crois, et j'en discutais récemment avec la présidente de la SBL, c'est l'injustice. Et l'injustice, ça, c'est vraiment parce que je crois que sous toutes ses formes, à partir du moment où on a vécu l'inceste, il y a toujours une injustice quelque part. Que ce soit l'injustice de la famille, de la législation, de l'entourage, le jugement, enfin voilà, et tout ça nous semble tellement pas juste, parce qu'en fait on était toutes des enfants et on n'a jamais rien demandé à personne, on nous a imposé que ce soit les faits comme tout le reste, et donc l'injustice c'est vraiment quelque chose de vraiment... Enfin, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui, moi, vient me chercher sur tous les plans, hein, pas forcément, mais je crois aussi, d'abord, par rapport à ça, que ce soit les violences en tout genre, mais par rapport à tout, si je regarde dans le cadre de mon travail, je sais que quand c'est pas juste, ça va venir me chercher loin parce que je sais que ça vient me toucher moi personnellement dans tout ce que je n'ai pas eu de reconnaissance d'un point de vue de la justice et du fait que personne n'a su nous protéger à un moment donné. Donc c'est vraiment voilà, compliqué. Et donc, dernièrement, c'est vrai qu'avec les diffusions, les rediffusions, les vidéos, les retransmissions de plein de sujets, voilà. Voilà, on aurait juste envie d'aller tous à l'avenue de la Loi, à la rue de la Loi, là, et les foutre un bon coup de fouet, de leur dire « Mais putain, mais réveillez-vous, quoi !» Ouais. Mais bon. Voilà, après, ça, c'est... un autre débat, je pense.
Je me relis très fortement aussi. Ce sentiment d'injustice m'habite depuis très longtemps. Et voilà, j'apprends à vivre avec ce qui s'est passé. Je pense que pour moi, c'est chaque jour, enfin voilà, à chaque instant, c'est comme si je donnais un peu plus la main à cette petite en moi qui a vécu ça. Et voilà, ça ne s'effacera jamais. C'est juste... limiter l'infection de la cicatrice, en fait, un peu à la fois, en tout cas. Et de témoigner ou de partager, en tout cas, je pense que, en tout cas, à mon sens, c'est vraiment important pour moi, ça a un réel sens. C'est aussi pour faire bouger les choses également. Ça, c'est clair que si ça peut faire bouger, ou en tout cas, ne serait-ce que... inspirer une autre femme ou peu importe d'autres personnes, femme ou homme, à oser en parler, j'en serais déjà super heureuse en fait. Parce que c'est pas facile. Il y a une forme de honte, je trouve, en tout cas dans notre culture. Et donc du coup, voilà, faut bien mettre ça. Tais-toi, on ne dit rien, on ne fait pas. Il y a une forme de honte au niveau des familles. C'est encore un sujet qui est extrêmement caché. Et qui a un impact non négligeable une fois que c'est révélé. Ça, c'est une certitude là-dessus. Donc, ouais, cette notion de consentement auprès, qui, à mon sens, dès la maternelle, aurait besoin d'être travaillée, informée dans les écoles, dans l'éducation parentale. Pour moi, ça démarre là. C'est ce qui permettrait, à mon sens, de diminuer, en tout cas, puisque... si je ne me trompe, c'est une personne sur cinq qui le vit, donc c'est énorme. Et il y a un gros, gros travail de fond à faire en tant que parent. Je suis maman également, plus d'un garçon. Donc pour moi, cette notion de consentement, elle est extrêmement importante et sur son corps et par rapport aux autres.
Oui, moi, je voudrais rebondir juste sur... c'est vrai que ça ne s'effacera jamais. Et la difficulté, c'est que, en tout cas, là où j'en suis moi, pourtant j'ai déjà 53 ans, mais c'est qu'un mot, une image, un son, un comportement, un regard, une musique, une odeur, tout ça, ça fait écho, enfin, chez moi en tout cas, peut-être parce que ça a duré très très longtemps, mais ça fait écho automatiquement à quelque chose qui s'est passé. Et c'est ça qui est extrêmement fatigant parce que il faut réagir très vite, il faut surmonter très vite cette émotion qui vient à ce moment-là. Et voilà, moi je me rends compte que j'arrive à surmonter plus vite maintenant, beaucoup plus vite, mais il y a que moi qui m'en rends compte, ça je le sais aussi. Et je ne sais plus, je voulais encore rebondir sur quelque chose que Nathalie avait dit, mais Je ne sais plus. Oui, bah oui, cette notion de consentement, évidemment, et même pour des choses simples que, voilà, quand on était petit, on était obligé de dire bonjour aux gens, on était obligé d'aller faire un bisou aux gens, même qu'on n'aimait pas. Moi, je détestais mon grand-père, mais il fallait que j'aille, voilà, vers mon grand-père, que je lui fasse un bisou, que, voilà, pourtant lui, je sais pas, il m'a peut-être fait quelque chose dont je me rappelle pas, j'en sais rien, c'est mon père qui a fait, mais, voilà, et ça c'est vrai qu'il faut respecter l'enfant comme une personne à part entière, pas comme voilà, pas comme un petit adulte et pas comme quelque chose qu'on voudrait voilà façonner. Hein, soit bien sage et dit voilà non il faut le voir voilà comme il est, comme il a envie d'être, comme il, voilà.
Merci à l'SBL de Mot à Mot d'avoir créé ce lien avec Natacha, Anne et Nathalie et de nous permettre de visibiliser le tabou de l'inceste. Ce podcast est produit par le Centre culturel de Moucron sous la direction de Maud Mallet, contenu et rédaction Gwenaëlle Robert, prise de son Antoine Desmonts, Bauduin Depré et Thierry Arduin, montage Thierry Arduin, identité visuelle Hélène Mie, identité sonore Nick Talop en partenariat avec RQC. Retrouvez Transmission Intime sur Instagram et Facebook. Pour nous contacter, une seule adresse, transmissionintimelepodcast@gmail.com. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à bientôt pour un nouvel épisode de Transmission Intime.